Pilar Ternera mourut dans son fauteuil à bascule en rotin, une nuit de fête, surveillant l'entrée de son paradis. Conformément à sa dernière volonté, on l'enterra sans cercueil, assise dans son fauteuil à bascule, que 8 hommes descendirent avec des cordes dans un énorme trou creusé au centre de la piste de danse. Les mulâtresses vêtues de noir, pâles de templerées, improvisaient les offices des ténèbres tout en ôtant leurs boucles d'oreilles, leurs broches et leurs bagues qu'elles jetaient dans la fosse avant qu'on ne la scellât d'une pierre sans nom ni date et qu'on ne la recouvrit d'un promontoire de camélia amazonien. Après avoir empoisonné les bêtes, elles condamnèrent portes et fenêtres avec des briques et du mortier et se dispersèrent à travers le monde, avec leurs coffres en bois tapissés à l'intérieur d'images pieuses, de chromos découpés dans des revues et de portraits de fiancés éphémères, lointains et fantastiques, qui chiaient des diamants ou mangeaient les cannibales ou se faisaient couronner rois de jeux de cartes en haute mer. C'était la fin. Dans la tombe de Pilar Ternera, parmi les psaumes et la verroterie des putains, se décomposaient les derniers vestiges du passé, le peu qu'il en était resté après que le savant catalan eut fermé la librairie et s'en fut reparti dans le village méditerranéen de sa naissance, vaincu par la nostalgie d'un printemps tenace. Nul n'aurait pu pressentir sa décision. Il était arrivé à Macondo au temps de la splendeur de la compagnie bananière, fuyant l'une des si nombreuses guerres, et il n'avait rien imaginé de plus pratique que d'installer cette librairie d'incunables et d'éditions originales en plusieurs langues que les clients de hasard feuilletaient avec méfiance, comme s'il se fût agi de livres orduriers, tandis qu'ils attendaient leur tour pour faire interpréter leurs songes dans la maison d'en face. Il passa une moitié de sa vie dans la torride arrière-boutique, à gribouiller de son écriture tarabiscotée à l'encre violette, sur des feuilles qu'il arrachait à des cahiers d'écolier, sans que personne ne sût de science certaine ce qu'il pouvait bien écrire. Quand Aureliano fit sa connaissance, il avait déjà deux caisses pleines de ces feuilles barbouillées qui, par quelques côtés, faisaient penser au parchemin de Melquiades. Et entre cette époque et le moment de son départ, il en avait rempli une troisième, ce qui permettait de penser raisonnablement qu'il n'avait rien fait d'autre au cours de son séjour à Macondo. Les seuls êtres avec lesquels il resta en relation furent les 4 amis, dont il échangea contre des livres les toupies et les cerfs-volants, et auxquels il fit lire Sénèque et Ovide alors qu'il fréquentait encore l'école primaire. Il traitait les classiques avec familiarité, sans façon, comme s'ils avaient tous été, à une époque ou à une autre, ses compagnons de chambrée, et savaient beaucoup de choses qu'on ne devait tout bonnement pas savoir, comme le fait que saint Augustin portait sous l'habit un paletot de laine dont il ne se sépara pas pendant 14 ans, et qu'Arnaud de Villeneuve, le nécromant, fut rendu impuissant dès l'enfance à cause d'une piqûre de scorpion. Dans sa ferveur pour le discours écrit s'entrecroisaient un solennel respect et la désinvolture des faiseurs de commérages. Jusqu'à ses propres manuscrits qui n'étaient pas à l'abri d'une telle dualité. Ayant appris le catalan pour pouvoir les traduire, Alfonso fourra un rouleau de pages dans ses poches, qu'il avait toujours pleines de coupures de presse et de manuels de métiers rares, et une nuit, vint à les égarer chez les gamines qui faisaient l'amour pour manger. Quand il l'apprit, au lieu de lui faire la scène qu'il appréhendait, le savant aïeul déclara mort de rire que c'était là le destin naturel de la littérature. Par contre, il n'y eut de pouvoir humain capable de le convaincre de ne pas emporter les 3 caisses quand il s'en retourna vers son pays natal, et il se répandit en injures en langue punique contre les contrôleurs du chemin de fer qui essayaient de les faire expédier comme bagages accompagnés, jusqu'à ce qu'il obtînt de rester avec elle dans le wagon de voyageurs. « Le monde !» dit-il alors. « Le monde aura fini de s'emmerder le jour où les hommes voyageront en première classe et la littérature dans le fourgon à bagages !» Ce furent les ultimes paroles qu'on lui entendit prononcer. Il avait passé une semaine noire à mettre la dernière main aux préparatifs du voyage, car au fur et à mesure que l'heure approchait, son humeur devenait massacrante. Il se perdait dans le fouillis de ses intentions. Les choses qu'il plaçait en un endroit réapparaissaient ailleurs, étant aux prises avec les mêmes esprits qui avaient tourmenté Fernanda. « Colon !» jurait-il. « Je chie sur le décret 27 du synode de Londres !» Hermann et Aureliano le prirent en charge. Ils lui vinrent en aide comme à un enfant, attachèrent ses billets et ses papiers d'émigration dans ses poches avec des épingles à nourrice, lui dressèrent une liste détaillée de ce qu'il avait à faire entre le moment où il quitterait Macondo et son débarquement à Barcelone, ce qui de toute façon ne l'empêcha pas de jeter aux ordures, sans s'en rendre compte, un pantalon qui contenait la moitié de sa fortune. La veille du départ, après avoir cloué les caisses et rangé ses vêtements dans la même valise qu'il avait en arrivant, il plissa ses paupières en valve de clevis, désigna avec une espèce de geste de bénédiction éhontée les tas de livres en compagnie desquels il avait supporté son exil et dit à ses amis « Je vous laisse là, cette merde !» 3 mois plus tard, ils reçurent une grande enveloppe contenant 29 lettres et plus de 50 photos qui s'étaient accumulées pendant les loisirs de haute mer. Bien qu'il n'eût pas mis de date, l'ordre dans lequel il avait écrit ses lettres était évident. Dans les premières, il racontait avec son humour habituel les péripéties de la traversée, ses envies de jeter par-dessus bord le maître d'équipage qui l'empêcha d'introduire les caisses dans sa cabine, la belle imbécilité d'une dame qui était atterrée d'avoir le numéro 13, non par superstition, mais parce qu'il lui semblait que c'était un numéro auquel il manquait encore quelque chose, et le pari qu'il gagna au cours du premier dîner en reconnaissant dans l'eau servie à bord le goût des betteraves nocturnes des sources de l'Érida. Au fil des jours, cependant, il devenait de plus en plus indifférent à la réalité du bord, et même les événements les plus récents et les plus banals lui paraissaient dignes de nostalgie. Car au fur et à mesure que le bateau s'éloignait, sa mémoire se faisait mélancolique. Ce processus de nostalgisation progressive était tout aussi évident sur les photos. Sur les premières, il avait l'air heureux, avec sa chemise d'invalide et sa mèche de cheveux neigeux, dans les ricochets de lumière de l'octobre caraïbe. Sur les dernières, on le voyait enveloppé d'un manteau sombre et d'une écharpe de soie, pâle reflet de lui-même, entaciturné par l'absence, sur le pont d'un bateau de regret qui commençait à somnambuler sur des océans autonomes. Germán et Aureliano répondaient à ses lettres. Il en écrivit tellement au cours des premiers mois qu'ils en venaient à se sentir plus proches de lui qu'à l'époque où il résidait à Macondo, et leur colère de le voir partir s'en trouvait presque apaisée. Au début, il leur faisait savoir que tout continuait comme avant, qu'il avait encore dans sa maison natale le même escargot rose, que les harengs sœurs avaient le même goût sur la tartine de pain, que les cascades du village se parfumaient toujours à la tombée de la nuit. C'étaient de nouveau les feuilles de cahier tout travaudées de gribouillis violets, dans lesquels il consacrait un paragraphe spécial à chacun. Pourtant, bien que lui-même ne parût point s'en apercevoir, ses lettres de ressaisissement d'élan encourageant se transformaient peu à peu en pastorales désabusées. Durant les nuits d'hiver, tandis que la soupe bouillait dans la cheminée, il avait la nostalgie de son arrière-boutique torride, du bruissement du soleil dans les amandiers poussiéreux, du sifflement du train dans la somnolence de la sieste, de la même façon qu'il regrettait à Macondo la soupe d'hiver dans la cheminée, les cris du marchand de café dans la rue et les rapides alouettes du printemps. Étourdi par deux nostalgies qui se faisaient face comme des miroirs parallèles, il perdit son merveilleux sens de l'irréalité, au point qu'il finit par leur recommander à tous de quitter Macondo, d'oublier tout ce qu'il leur avait enseigné sur le monde et le cœur humain, d'envoyer chier Horace et, en quelque endroit qu'ils fussent, de toujours se rappeler que le passé n'était que mensonge, que la mémoire ne comportait pas de chemin de retour, que tout printemps révolu était irrécupérable et que l'amour le plus fou, le plus persistant, n'était de toute manière qu'une vérité de passade. Alvaro fut le premier à écouter son conseil d'abandonner Macondo. Il vendit tout, jusqu'au tigre prisonnier qui se moquait des passants dans la cour de sa maison, et acheta un billet éternel pour un train qui n'arriverait jamais à destination. Dans les cartes postales qu'il expédiait depuis les gares traversées, il décrivait à grand renfort d'exclamations les instantanés qu'il avait découverts par la baie du wagon, et c'était comme d'émietter pour le jeter à l'oubli le long poème de la fugacité. Les noirs chimériques dans les champs de coton de Louisiane, les chevaux ailés sur l'herbe bleue du Kentucky, les amants grecs dans le crépuscule infernal de l'Arizona, la jeune fille en pull rouge qui peignait des aquarelles sur les lacs du Michigan et qui lui adressa avec ses pinceaux un signe qui n'était pas d'adieu mais d'espérance parce qu'elle ignorait que le train qu'elle voyait passer était sans retour. Par la suite partirent Alfonso et Germán un samedi avec l'intention de revenir le lundi, mais jamais on n'en eut plus de nouvelles. 1 an après le départ du savant catalan, le seul à rester à Macondo était Gabriel, encore à volo, à la merci de la charité aléatoire de Nigromanta, répondant au questionnaire d'un concours paru dans une revue française dont le premier prix était un voyage à Paris. Aureliano, auquel était adressé l'abonnement, l'aidait à remplir les formulaires, parfois chez lui, mais presque toujours parmi les flacons de porcelaine et dans l'air chargé de valériane de l'unique pharmacie restante à Macondo, où vivait Mercedes, la fiancée secrète de Gabriel. C'était tout ce qui subsistait d'un passé dont l'anéantissement n'arrivait pas à se consommer. parce qu'il continuait indéfiniment à s'anéantir, se consumant de l'intérieur, finissant à chaque minute, mais n'en finissant jamais de finir. Le village en était arrivé à un tel degré d'inertie que le jour où Gabriel remporta le concours et partit pour Paris avec deux costumes de rechange, une paire de souliers et les œuvres complètes de Rabelais, il dut faire des signes aux mécaniciens pour que le train s'arrêtât le prendre. L'ancienne rue aux Turcs n'était plus alors qu'un coin à l'abandon, où les derniers Arabes se laissaient conduire à la mort par leur habitude millénaire de s'asseoir sur le pas de leur porte, bien que depuis de nombreuses années déjà, ils eussent vendu leur dernier aune de diagonale et que fussent seuls restés dans la pénombre des vitrines les mannequins décapités. La cité de la compagnie bananière, que peut-être Patricia Brown s'évertuait à évoquer pour ses petits-enfants dans les soirées d'intolérance et de cornichons au vinaigre de Prattville, Alabama, n'était plus qu'une plaine herbeuse et inculte. Le vieux curé qui avait remplacé le père Angel, et dont personne ne prit la peine de chercher à savoir le nom, attendait la pitié de Dieu, couché bien à son aise dans un hamac, tourmenté par l'arthrite et l'insomnie du doute, cependant que les lézards et les rats se disputaient l'héritage de l'église toute proche. Dans ce Macondo oublié jusque par les oiseaux, sur lequel la poussière et la chaleur avaient une telle emprise qu'il fallait se donner du mal pour respirer, prisonnier de la solitude et de l'amour, et de la solitude de l'amour, dans une demeure où il était presque impossible de fermer l'œil en raison du grondement confus des fourmis rouges, Aureliano et Amaranta Ursula étaient les seuls êtres heureux et les plus heureux de la terre. Gaston s'en était retourné à Bruxelles. Un beau jour, lassé d'attendre l'aéroplane, il fourra dans une petite valise son nécessaire et les archives de sa correspondance et s'en alla avec l'intention de revenir par la voie des airs avant que ses concessions ne fussent cédées à un groupe d'aviateurs allemands qui avait présenté aux autorités provinciales un projet plus ambitieux que le sien. Depuis l'après-midi du premier amour, Aureliano et Amaranta Ursula avaient continué à mettre à profit les rares moments d'inattention du mari, s'aimant avec des transports qu'il leur fallait bâillonner, en de hasardeuses rencontres presque toujours interrompues par quelques retours à l'improviste. Mais quand ils se retrouvèrent seuls à la maison, ils s'adonnèrent au délire des arriérés de l'amour. C'était une passion insensée, complètement déréglée, qui faisait trembler d'effarement les ossements de Fernanda dans sa tombe, et qui maintenait l'un et l'autre dans un état d'exaltation permanente. Les petits miaulements d'Amaranta Ursula, ses chants de moribonde, éclataient tout aussi bien sur la table de la salle à manger vers 2 heures de l'après-midi qu'à 2 heures du matin au grenier. « Ce qui me fait le plus souffrir, disait-elle en riant, c'est tout le temps que nous avons perdu. » Dans le vertige de cette passion, elle vit les fourmis ravager le jardin, satisfaisant leurs fringales préhistoriques sur les boiseries de la maison, et vit ce torrent de lave vivante se rendre à nouveau maître de la véranda, mais elle ne se soucia d'en enrayer l'invasion qu'au moment où elle le trouva parvenu jusque dans sa chambre. Aureliano délaissa les parchemins, ne remit plus les pieds hors de la maison et répondait n'importe comment aux lettres du savant catalan. Ils perdirent le sens de la réalité, la notion du temps, le rythme des habitudes journalières. Ils fermèrent à nouveau portes et fenêtres pour ne pas perdre de temps à s'habiller pour se redéshabiller et allaient et venaient dans la maison comme Remedios la belle avait toujours souhaité être et se vautraient tout nus dans les tourbillons du patio et faillirent se noyer un après-midi en faisant l'amour dans le bassin. En peu de temps, ils commirent plus de dégâts que les fourmis rouges. Ils détruisirent le mobilier du salon, mirent en lambeaux avec leur folie le hamac qui avait résisté aux tristes amours de campagne du colonel Aureliano Buendia, et éventrèrent les matelas qu'ils vidèrent par terre pour s'étouffer dans des tempêtes de coton. Bien qu'Aureliano fût un amant aussi féroce que son rival, c'était Amaranta Ursula qui donnait les ordres dans ce paradis de calamité. Avec son ingéniosité extravagante et sa voracité débordante de lyrisme, comme si elle avait entièrement dévolu à l'amour l'indomptable énergie que sa trisaïeule avait consacrée à la fabrication de petits animaux en caramel. En outre, tandis qu'elle chantait de plaisir et mourait de rire à cause de ses propres inventions, Aureliano se faisait plus songeur et silencieux, car sa passion s'était repliée sur elle-même et le calcinait. Tous deux en arrivèrent cependant à de tels prodiges de virtuosité, qu'harassés par leur frénésie, ils n'en tiraient que meilleure partie de leur fatigue. Ils s'adonnaient à l'idolâtrie de leur corps, en découvrant que ce qui répugnait dans l'amour recelait des possibilités inexplorées, beaucoup plus riches que celles du désir. Tandis qu'il massait avec des blancs d'œufs les seins érectiles d'Amaranta Ursula, ou adoucissait à l'huile de palme ses cuisses élastiques et la peau de pêche de son ventre, elle jouait à la poupée avec l'impressionnant Zizi d'Aureliano, lui dessinait des yeux de clown avec du rouge à lèvres et des moustaches de turc au fusain à sourcils, et lui mettait des petites cravates d'organcin et des petits chapeaux en papier d'argent. Une nuit, ils s'enduisirent des pieds à la tête avec des abricots au sirop, se léchèrent comme des chiens et s'aimèrent comme des fous à même le sol de la véranda, où les fit revenir à eux un torrent de fourmis carnivores qui s'apprêtaient à les dévorer tout vifs.